Bonjour Renaud Dourges en votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être avec Albert Wilmets, un invité. J'oserais presque dire qu'on ne présente plus car vous êtes venu à plusieurs reprises et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous allons, comme par hasard, parler de Sacha Guitry pour les 4 ans d'occupation. Alors, il est très important de dire occupation au pluriel, bien que cela se passe durant la période 40-44. Cet ouvrage, donc, c'est Sacha qui l'a écrit. Ce sont des écrits de Sacha, ce n'est pas une forme de biographie extérieure.
Absolument. Sacha Guitry a écrit ses activités pendant l'occupation, ses occupations pendant l'occupation, qui est un témoignage historique absolument prodigieux et qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses et de rétablir un certain nombre d'inexactitudes. L'association des Amis de Sacha Guitry vient donc de publier la version complète avec une abondante documentation historique qui permet d'avoir les courriers, toutes les preuves, tous les témoignages de 4 ans d'occupation, également par la suite de l'ouvrage qui a suivi.
On peut résumer presque cette période, comme l'a fait Sacha, en disant « Arrêté avec éclat le 23 août 44, certifié innocent le 8 août 1947 ». Il aura fallu un certain temps. Mais nous parlerons dans une autre émission de l'ouvrage sur les 60 jours de prison, par contre. Mais là, nous allons parler de ces 4 années et commencer par l'arrivée des Allemands à Paris. Il n'est pas à Paris à ce moment-là.
Non, il est à Dax. Il est à Dax parce qu'il a des problèmes de santé depuis toujours, donc il est en cure. Là, il se retrouve consterné de voir l'effondrement de la France, vaste sujet historique, et il décide, en demandant conseil à Bergson, qui se trouve dans la ville également, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Et Bergson, le grand philosophe, répond « Allez à Paris, vous lui devez tout ». Et donc, Bergson, comme Sacha, se rendent compte avec horreur qu'ils ont besoin de papiers pour retourner à Paris. Et les papiers vont être faits pour qu'ils puissent revenir. Et c'est grâce à ça que Bergson est mort à Paris pendant l'occupation dans son lit.
Bergson... N'oublions pas que Bergson était juif, il aurait pu être arrêté.
Absolument. Alors Bergson, d'ailleurs, ça avait fait un petit problème parce que quand les papiers ont été donnés à Bergson et qu'ils ont vu Bergson sortir de l'hôtel pour aller dans la voiture, les soldats allemands qui étaient là sont mis au garde à vous, devant le grand philosophe, pour reprendre l'expression de l'officier allemand qui était là à ce moment-là. Le problème, c'est que ça s'est su dans les journaux et qu'il y a eu la propaganda Staffel, pardonnez l'accent, je ne parle pas un traître mot d'allemand, comme
non
disait Sacha,
assurez-vous,
avait immédiatement corrigé en disant pas du tout. Il n'a jamais été donné les honneurs à Bergson. Et Sacha Guitry mentionne dans le livre que c'est la première manifestation violente de la presse où on se rend compte à quel point les choses vont vite se dégrader.
Bien sûr, on parlera tout à l'heure de journaux comme La France au Travail ou Le Pilori qui ont vraiment essayé de faire le maximum d'ennui à Sacha. Mais donc, il va arriver à Paris et il va tout de suite être sollicité pour présider des métiers du théâtre.
Oui, c'est-à-dire que Sacha Guitry a une longue tradition depuis son premier succès de 1905 de faire des galas de charité. Donc, il le fait tout le temps. Avant-guerre, il en avait fait même pour l'école HEC, ce qui est assez inattendu, et d'autres choses encore. Et plus de 100 galas de charité toute sa vie. Il arrive à Paris, la première chose qu'il fait au Théâtre de la Madeleine, c'est d'ouvrir un centre d'accueil pour les gens qui ont besoin d'argent. Il est président de l'Union des théâtres, Union, Gala de l'Union. Vous vous souvenez, le Gala de l'Union était pour les nécessiteux du monde du spectacle. Et donc, tout de suite, il commence à organiser. Et puis, les théâtres réouvrent. Le théâtre de l'œuvre réouvre, le concert Mayol réouvre, un troisième théâtre réouvre, un théâtre est volé à son propriétaire. C'est le théâtre que nous avons connu sous le nom des Ambassadeurs et que les plus jeunes ont connu sous le nom d'Espace Cardin. Il appartient à Henri Bernstein et une bande d'aigres fins, profitant du fait que Bernstein, n'étant pas à rien, ne peut pas garder le théâtre, l'ont carrément volé. et ils font des spectacles. Sacha réouvre en jouant Pasteur, pièce à la gloire de la France, au grand savant, où il n'y a pas de rôle de femme. Ce n'est pas du tout le genre de pièce que joue Sacha Guitry d'habitude. Il partage les recettes en trois morceaux, un pour ceux qui ont besoin d'argent, un pour les acteurs, et chacun va toucher exactement la même chose, et le restant va aller pour les frais du théâtre, bien entendu, pour ça. C'est totalement inattendu.
C'est dans cette pièce, je crois, que d'ailleurs Pasteur renvoie un diplôme qu'il avait eu de la part de l'Allemagne.
Exactement.
Alors, faire jouer ça en 40.
La censure allemande avait essayé de couper ça. Et Sacha avait dit, c'est historique, non. Et il s'était fait des ennemis immédiatement, parce que historiquement, ils n'ont pas réussi à pouvoir le couper, ce qui est fou. Quand Pasteur apprend qu'il y a la guerre de 1870 et qu'on perd l'Alsace-Lorraine, il rend ses diplômes honoris causa à l'Allemagne. Et puis, à la fin de la pièce, il y a le président de la République en habit avec le grand cordon rouge, il y a un général français en uniforme, tout le monde se lève et crie « Vive la France !» On imagine l'effet que ça fait.
Oui, surtout qu'il y avait probablement beaucoup d'officiellement dans la salle.
Il y avait surtout un qui avait un nom allemand. En réalité, Sacha n'avait pratiquement pas d'officier allemand. Ils étaient dans d'autres théâtres que, par gentillesse, Sacha Guitry ne mentionne pas. Et je suis tout à fait son exemple pour ça aussi. Il y avait en général 5, 6, au grand maximum, allemands dans des salles de 800 Sacha Guitry. Et nous avons les noms, parce que chaque jour, il y a une petite fiche avec écrit « Ce jour vient la reine Amélie du Portugal, ce jour vient Jeanne Avril, ce jour vient Monsieur Machin allemand envoyé par Provenza Staffel avec Monsieur Allemand, Monsieur Allemand, Monsieur Allemand. » Donc on a tous les noms jour par jour. Ça fait une moyenne de 5, 6 par jour, en sachant qu'il y a des fois où il n'y a personne. Alors, ce monsieur Turner, allemand, en dépit de son nom anglais.
Oui. C'était pas un meunier, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Voilà, était apparemment trop aimable, parce que Hitler l'a renvoyé au bout d'un an. Et c'est là où il va se passer le grand problème de Sacha, c'est qu'il va lui dire, c'est tellement extraordinaire ce que vous faites, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Écoutez, pour moi, rien. Mais si vous pouvez me faire libérer quelques prisonniers, il n'en connaissait qu'un seul. Le frère de mon père, le fils de mon grand-père Albert Wilmès, qui était prisonnier en Allemagne. Mon père était avec le général de Gaulle à Londres, il y en avait donc un en Allemagne coincé. Et Sacha, très bien, je vous donne 10 noms. Alors Sacha ne connaissait personne, donc il a demandé partout, et comme il ne connaissait pas et que les gens ne connaissaient pas, il a même fait libérer le fils de la concierge d'en face de l'immeuble. Mais tout le monde après est venu lui demander. Et Sacha voulait, et on a réussi à en faire libérer 11 au lieu de 10 finalement. Et il y a un fait inouï à ce moment-là qui est raconté après la mort de Sacha par Geneviève de Cériville. Geneviève de Cériville lui a dit, Sacha, ne fais pas ça. Et mon grand-père
ça a été une de ses épouses, il faut peut-être le rappeler.
Voilà, vous avez entièrement raison de le rappeler, c'est ça, l'épouse qui est là au moment de la guerre, et qui était comédienne, chanteuse, et elle lui dit, ne le fais pas, parce que si tu le fais, ça va être reproché au moment de quand les Allemands vont perdre la guerre. Et mon grand-père, qui est là à ce moment-là et qui assistait à tout, lui dit « Ne fais pas libérer mon fils, c'est Cornélien, parce que si tu le fais, ça va être reproché au moment de la victoire des Alliés. » Alors, et Sacha, consterné, répond « Écoutez, je peux faire tellement de bien, je vais quand même pas me priver de pouvoir faire rentrer des personnes. » Et dans le livre, il y a des témoignages par dizaines de personnes qu'il a réussi à faire rentrer d'une façon absolument étonnante.
Dont une qui, avant-guerre, lui était antipathique.
Absolument.
Le précise.
C'est ça qui est inouï. Et
c'est Jacques Dourdan, c'est ça.
Voilà, il y a beaucoup de noms qui ne sont pas passés à la postérité. Et il faisait même ça pour des gens qui ne connaissaient absolument pas. Vous avez des exemples de dames qui écrivent en disant « Mon fils est prisonnier, est-ce que vous pouvez me recevoir ?» Il écrit de sa main « Oui » dans la journée, enfin, cette semaine à 11h. Deuxième lettre « Cher maître, merci de m'avoir reçu. Voici des précisions pour écrire à mon fils. » Troisième lettre, « Cher maître, grâce à vous, il a été libéré. » Donc, c'est des situations, il libérait, il faisait le bien autant qu'il pouvait le faire et absolument pour tout le monde.
Et c'est ce qui lui vaudra d'être en prison en fin de compte.
Voilà, parce que ce qui s'est passé dans l'histoire des prisons, pour faire juste une toute petite parenthèse, c'est que c'est un cas unique, puisqu'il a été mis en prison par des personnes qui n'avaient pas de mandat, puisque la police, on n'est même pas totalement sûr, la police était en grève à ce moment-là, il n'y a absolument aucun mandat. Il y a deux garçons qui l'arrêtent, un qui est un garçon apparemment très sympathique et qui, dont Sacha va dire du bien, et un autre qui est une véritable crapule parce qu'il le menace avec un revolver tout le temps et Sacha s'inquiète un peu. D'ailleurs, Sacha va risquer d'être assassiné, disons-le, dans les jours qui viennent plusieurs fois de suite. On lui annonce d'ailleurs carrément. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? On l'arrête, on le met en prison. C'est le 23 août. Il ne sortira de prison que 60 jours après, mais surtout, il verra un juge que le 18 octobre. D'habitude, on vous juge et on vous met en prison. Là, on l'a mis en prison et il fallait bien faire un jugement. Et le jugement, c'était presque 2 mois après. Et comme le juge n'avait rien dans le dossier, parce que Sacha Guitry, contrairement à une rumeur tenace qui est malheureusement entretenue par des gens mal informés, parfois par des gens mal intentionnés aussi,
plutôt, oui.
Et dans la pratique, le juge n'ayant rien le 18 octobre, fait publier dans un grand journal appel à dénonciation parce qu'il n'a rien. Alors, il y a juste une personne qui a dit du mal de lui, c'est un lien avec l'Académie Goncourt qui est très différente aujourd'hui, mais il y a eu un gros problème avec l'Académie Goncourt. Il y avait surtout quelqu'un qui était tout proche, qui avait publié un livre.
Il y a certains membres des Goncourt à l'époque, on sait qu'ils ne s'aimaient pas tellement.
Voilà, il y avait des rivalités plus ou moins littéraires, mais il y avait un monsieur en particulier que Sacha a fait témoigner comme témoin des charges, etc. Et le juge a dit, mais vous n'avez pas bien compris, c'est pas un témoin pour vous, non, mais c'est un témoin de l'autre côté, celui-là je suis sûr. Et le monsieur en question, etc., avait publié un très joli livre avant-guerre sur Adolf Hitler, montrant Adolf bébé, montrant les photographies de papa, maman d'Adolf, etc., etc. Quatrième de couverture, une croix gammée, etc. Alors, utile de vous dire que cette personne qui est celui, le seul qui a accusé Sacha Guitry de collaboration...
Il avait besoin de se dédouaner.
Il avait besoin de se dédouaner. D'ailleurs, dans ses biographies après-guerre, ça n'apparaît plus. Cet ouvrage sur Adolf Hitler, il a dû penser qu'après la guerre, c'était moins utile pour lui.
Alors, on a dit de Sacha qu'il avait le buste de Hitler au foyer du théâtre.
Là aussi, c'est trop drôle. Si il n'y avait pas encore ce truc. Lucien Guitry, jusqu'à un certain point... a un petit côté Mussolini.
Oui, il ressemble oui, un peu à la Calvitie.
Mais il faut vraiment être pour ça. Alors, sachant en plus que Sacha Guitry, comme Sarah Bernhardt, a interdit l'Allemagne depuis toujours, même lorsque le président Poincaré, entre les deux guerres, lui avait dit « Écoutez, mais après la Première Guerre mondiale, maintenant nous sommes dans une idée de réconciliation. Alors, Monsieur Guitry, s'il vous plaît, autorisez, 1926, que vos pièces soient jouées en Allemagne maintenant. » Et ça a dit non. Courteline est intervenue. Et dans le livre, vous avez également la lettre de Courteline qui lui dit « Sacha, s'il te plaît, fais jouer tes pièces en Allemagne. » Et Sacha répond « Non, parce que les Allemands n'ont pas changé. » En quoi il avait raison en 26 d'ailleurs. Alors tout ça se retrouve dans ce livre merveilleusement documenté de Sacha Guitry, qui a la particularité d'avoir donc été publié juste après-guerre et qui a la particularité également de n'avoir pas reçu une seule critique de qui que ce soit sur quelque fait que ce soit. Vous noterez que c'est rare ici, mais en général, les livres racontant historiquement les choses on pinaille sur un point de détail. Là, on a pu pinailler absolument sur rien.
Nous avons parlé tout à l'heure de la presse collaborationniste. Il y a donc en particulier deux journaux que j'ai cités très rapidement tout à l'heure, Le Pilori et La France au Travail, qui se sont acharnés contre lui. Mais nous allons, si vous le permettez, laisser passer un communiqué et je vous laisse répondre.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bien, alors je disais donc, je rappelle déjà le titre de l'ouvrage, Sacha Guitry, 4 ans d'occupation. C'est édité par l'association des amis de Sacha Guitry que vous présidez. Et donc cet ouvrage, on peut le commander auprès de l'association, bien évidemment. Mais je parlais donc de ces deux journaux, enfin il y en a eu d'autres certainement, mais en particulier Le Pilori et La France au Travail, qui ont dit qu'il était juif. Et donc c'était presque le condamné à mort.
Voilà, en juin 1940, Le Pilori, La France au Travail, un troisième que je ne citerai pas, organe de l'ambassade d'Allemagne, dit qu'il est juif, ainsi que en décembre, il réattaque en mettant Haribor et également...
Trenet.
un peu, c'est un autre moment, mais en effet, Charles Trenet a eu des problèmes
là
dessus
également. Il a dit qu'il s'appelait Néther en réalité.
Oui, il y a eu des histoires absolument incroyables. Et un auteur, Édouard Bourdet, enfin, oui, qui était dans le troisième. Alors Sacha, à ce moment-là, utilise ses armes. Ses armes, c'est le théâtre. Il écrit la fameuse pièce « Mon Auguste grand-père » dont nous avons déjà parlé chez vous, qui va être répétée en décembre, en janvier. Nous
les Allemands ont dit d'ailleurs, enfin le censeur allemand, que les Français n'étaient pas prêts à entendre cette pièce.
Exactement, tout à fait. Et cette pièce est absolument merveilleuse parce que oser prendre la défense des Juifs en janvier 41 à Paris, je ne connais pas quelqu'un d'autre qui ait pu le faire. Les Allemands, à partir de ce moment-là, systématiquement vont bloquer Sacha Guitry. Ils vont le bloquer pour une pièce qu'il avait écrite avant-guerre qui s'appelait le soir de Sterlitz et qu'il... Les Allemands, à l'époque, avaient un peu plus de culture, donc ils se rendaient compte qu'Austerlitz, c'était un petit peu compliqué. Sacha repasse la pièce sous le nom merveilleux « Vive l'Empereur !» Et ça marche. Donc c'est la seule pièce qui a deux titres. Il a des coupures dans de nombreux films. Et il a encore une Charles Trenet dont vous venez de parler. Il écrit une opérette avec Charles Trenet. Charles Trenet dans le rôle principal, Charles Trenet comme musicien, qui s'appelle Le Dernier Troubadour, que l'association a aussi publié, ça n'avait jamais été publié, comme Mon Auguste grand-père n'avait jamais été aussi publié, et ça vous les retrouvez chez Cagliani, vous les retrouvez à la librairie du Ken, et vous les retrouvez sur Amazon et sur notre site association les amis de Sacha Guitry.com. Et c'est inouï parce que on l'a attaqué pour lui prendre son théâtre, la Madeleine, pour lui prendre ses collections, éventuellement les collections fabuleuses.
Et heureusement qu'Alain Decaux était là d'ailleurs, puisqu'Alain Decaux a gardé, s'est fait le garde-chiourme, si on peut dire, de la maison.
Merveilleux, Alain Decaux a évité le pillage de cette maison. Nous avons publié le livre chez Sacha Guitry, qui est franchement la plus belle collection que l'on puisse trouver de peintures, de manuscrits françaises. Tout l'argent que Sacha Guitry gagnait au théâtre était uniquement dédié à l'achat de peintures et de manuscrits. Les comptes en banque étaient presque toujours à zéro.
Merci. Alors, nous avons parlé des personnes qu'il a fait libérer, et il y a d'autres personnes pour lesquelles il est intervenu, entre autres la veuve du maréchal Joffre.
Voilà. Alors que Sacha avait sa propriété à côté de Versailles, et ce dans le Midi, qui était réquisitionné par les Allemands, quand il a appris que la propriété du maréchal Joffre était réquisitionné par les Allemands, alors qu'il y avait la tombe, etc. Il a demandé, vous trouvez que c'est bien ce que vous faites ? Et il y a eu un officier allemand qui s'est dit, non, on ne peut pas. Donc ils l'ont dit. Et la maréchale Joffre a écrit une lettre merveilleuse de remerciement.
En voyant une médaille de son mari.
En envoyant la médaille militaire de son mari, que nous avons reproduit dans le livre chez Sacha Guitry, que Sacha a fait encadrer respectueusement, et le fanion du maréchal également. Et une lettre disant que ces objets qui ont été sacrés toujours proches de son mari ou sur sa poitrine, elle est maintenant être dans la maison d'un grand Français. La lettre est absolument merveilleuse et d'ailleurs nous avons beaucoup développé, en plus de 4 ans d'occupation qui est l'ouvrage de base, dans Mon Auguste grand-père, beaucoup d'éléments sur l'occupation et dans Le Dernier Troubadour, nous avons rajouté la pièce interdite de Charles Trenet aussi, nous avons rajouté énormément d'éléments sur cette époque, parce que comme vous dites si bien, on dit que Sacha Guitry est juif, alors que Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre, son parrain.
C'est le parrain du tsar.
Le parrain du tsar Alexandre III, donc on prend en général le prénom de son parrain. Et alors Sacha avait un problème, c'est qu'il lui manquait un certificat de baptême de sa grand-tante maternelle. Mais elle avait la particularité d'être la sœur de Monseigneur de Bonfils, évêque du Mans.
Oui.
Ce qui avait un peu calmé les choses.
Je me doute. Alors, donc, il a toujours voulu essayer de ne rencontrer aucun Allemand. Il y en a un qu'il a été obligé de rencontrer quand celui-ci est venu à Paris, parce qu'il aurait eu peut-être des problèmes s'il avait totalement refusé. C'est Göring.
Voilà. Il est à son bureau en train de travailler. Madame Choiseul lui dit, écoutez, il y a deux messieurs allemands qui veulent monter. Je vous préviens. Alors, les deux qui arrivent dans son bureau... « Monsieur, est-ce que vous pouvez nous suivre ? Est-ce que vous voulez me fusiller ?»« Non, monsieur. » Et Sacha a dit, ils l'ont répondu absolument sérieusement. « Où m'emmenez-vous ? » ?»« Ah, on n'a pas le droit de vous le dire. Prenez un téléphone et il va chez Göring. » Là, il se retrouve au ministère des Affaires étrangères. Et Göring ne parle pas français. Il a un interprète qui est le général Hannes. Ça dure une dizaine de minutes. Il y a une quinzaine d'officiers allemands dans le grand salon. Les portes sont ouvertes, c'est bourré d'officiers. Et Sacha dit, je ne comprends pas pourquoi il a voulu me voir. Est-ce que, à cause de sa notoriété, c'est peut-être pour ça, est-ce qu'il voulait lui dire, allez jouer en Allemagne? Et il n'a pas osé, voyant comment était Sacha, réservé, parce que Sacha Guitry a refusé des cachets de plusieurs millions pour aller jouer à Berlin, ce que beaucoup de Français dans ce milieu n'ont pas fait malheureusement, et refusé des sommes gigantesques pour faire des films avec les Allemands, ce que beaucoup d'autres personnes n'ont pas pu faire également.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'il sera en prison, là, ce sont des Américains qui viendront dans la prison pour le voir.
Oui, c'est-à-dire que vous avez entièrement raison de le rappeler. Il est tellement connu qu'aujourd'hui, on le met à toutes les sauces, dans tous les films et dans tous les romans, puisque c'est la seule personne qui soit née au 19e siècle, dont on parle encore beaucoup dans le théâtre pour du 20e. Et il est en prison, et il y a deux journalistes allemands qui viennent le voir. Pour l'interview,
Américain.
Excusez-moi, pour l'interviewer, lui seul, alors qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était là. Mais il était tellement connu. Et l'exemple raconté dans le livre est absolument inouï, parce qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'il fait là. Et donnez-nous un message pour l'Amérique. Donc c'est absolument inattendu, mais c'est la preuve tangible d'une notoriété internationale. Il avait fait des tournées avec Yvonne Printemps, comme Sarah Bernhardt en avait fait aux États-Unis, et qui avaient été des succès considérables aussi.
Nous arrivons, Albert Villemette, c'est là, c'est déjà la fin de cette émission, on pourrait vous entendre pendant des heures, mais dans quelques semaines, nous allons parler de ces fameux 60 jours de prison, que ça sera très important d'en parler. Je voudrais rappeler quand même que Sacha Guitry, 4 ans d'occupation, s'est paru donc aux éditions, si l'on peut dire, puisque ça devient presque une maison d'édition, des Amis de Sacha Guitry. Combien de titres à ce jour à peu près?
En réalité, nous avons déjà publié plus de 30 à 40 pièces de Sacha Guitry. Les livres comme ceux dont vous avez parlé, Elles et toi, Si j'ai bonne mémoire, ceux de chez nous. En gros, nous allons publier la totalité de l'œuvre de Sacha Guitry. Nous avons 125 pièces à publier. Il nous en reste encore quelques-unes.
Voilà, donc il y a encore du pain sur la planche. Nous allons terminer cette émission. Bah, écoutez, j'ai pensé on a parlé d'Yvonne Printemps tout à l'heure. On a parlé un petit peu brièvement, peut-être trop brièvement, de votre grand-père. Bah, j'ai choisi une chanson écrite par votre grand-père où elle parle du destin. Et là, on peut parler, c'est pas le destin de Désiré Clary, mais là, c'est le destin un petit peu de Sacha Guitry. Je vous remercie encore une fois, Albert Villemette, d'être venu aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Nous reviendrons voir ce cher Sacha.
Avec grand plaisir.
Merci à vous.
ni pourquoi ni comment, soudain on s'enflamme, on s'ébranle.